Tu m'as fait le cœur. Hein.
Allons donc.
Carré d'As, l'émission qui ne pique pas, mais qui a du cœur.
Carré de roi.
Carré d'As, dommage.
Impossible, ma cinquième carte était un as.
Je déteste être accusé de tricherie, surtout quand je joue.
À présent, enlève ton costume. Nous allons continuer avec 52 cartes seulement.
Carré d'As, l'émission qui ne pique pas mais qui a du cœur.
Allô, allô.
Chut, ça tourne.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la troisième saison de l'émission de Carré d'As, une émission préparée depuis quelques semaines avec les nouveaux volontaires en service civique du centre social et des fidèles du lieu.
Aujourd'hui, on est enregistré à la Vierge Noire dans le centre social de Carré d'As. Je suis Lucien et pour m'accompagner au micro, Léa et Silvano.
Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur la thématique des maladies et handicaps invisibles au travers d'interviews enregistrées et d'autres que nous réaliserons aujourd'hui en plateau ici au centre social.
Et aujourd'hui, nous accueillerons sur le plateau Kamel Guiloul de l'association Apica et Martine Sabal de l'association Les Voix des Mera.
Mais avant de continuer, pour que tout le monde comprenne, Silvano, c'est quoi une maladie ou un handicap invisible ?
Alors, une maladie ou un handicap dit invisible est, comme son nom l'indique, une maladie ou un handicap qu'on ne voit pas forcément. Ça peut être physique ou aussi mental, comme la dépression, la bipolarité ou même une addiction.
Merci Silvano. Et maintenant, on accueille Martine de l'association Les Voix des Mera.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ?
Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Martine Sabal. Je suis présidente de l'association Les Voix des Mera que j'ai créée donc, en septembre dernier.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire qui vous contacte le plus souvent à l'association ?
Alors, ce sont des personnes qui nous sont envoyées donc, par le CMP, par le CDAS, également la CAF. On nous connaît aussi par connaissance. Et donc voilà, donc ce sont des personnes qui se retrouvent en difficulté psychologique et qui n'ont pas accès à l'offre libérale, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller chez un psychologue en ville pour des raisons qui sont financières, mais aussi beaucoup culturelles. C'est-à-dire qu'en France, on a un petit problème à aller voir un psy. Ce n'est pas toujours une démarche facile. Et c'est vrai que le biais de l'association, bah, ça permet aux gens, finalement, de pousser la porte plus facilement, quoi. Voilà.
D'accord. Et pourquoi avoir choisi ce nom d'association, Les Voix des Mera ?
Alors, pourquoi Les Voix des Mera ? Emera, c'est la déesse de l'aurore. Hein, c'est la fille de d'Ereb, qui est dieu des ténèbres, et de Nyx, qui est la déesse de la nuit. Et Emera, en fait, c'est elle qui, tous les matins, vient lever le voile donc, que ses parents ont mis donc, la veille au soir. Donc, il y a toute une symbolique derrière, c'est vrai, lever le voile et puis aussi laisser passer la lumière, quoi. Voilà. Et les voix, parce que chacun a sa propre voix et voilà.
Ah oui, d'accord. Et comme vous savez, aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est les maladies invisibles. Mmh. Et vous rencontrez des gens qu'on n'imagine pas forcément en détresse psychologique en les voyant ou ça se voit directement ?
Ah mais c'est pas écrit sur le visage des gens. Hein. Vous savez, c'est le type de souffrance même que la société ne veut pas voir. Donc en fait, la plupart du temps, ces personnes dépensent beaucoup d'énergie pour cacher leur état. D'ailleurs, c'est un vrai drame parce que ça décale d'autant plus la prise en charge. Et ils sont bien souvent dans le déni. C'est-à-dire que toutes ces maladies finalement qui ne sont pas visibles sont très handicapantes justement du fait qu'il n'y ait pas de reconnaissance par rapport aux gens. Quoi. Le regard sur le handicap est déjà très dur, mais sur tout ce qui concerne les pathologies mentales, c'est encore pire, je crois. Ah oui. C'est-à-dire qu'en France, il vaut mieux se casser un bras que de faire une dépression, en gros. Hein. Hein, parce que si on se casse un bras, on ne se pose pas la question, on va à l'hôpital, voilà, puis on est soigné, puis on dit, bah, dis donc, je me suis cassé le bras. Si on fait une dépression, on est déjà un petit peu plus, embêté, on est un peu dans le déni, non, ça va aller... Voilà, on attend, et le fait de retarder cette prise en charge, bien souvent, ça ne fait qu'aggraver finalement ce qui impacte la vie des gens, quoi.
Ouais. Et selon vous, qu'est-ce qui amène les gens à la déprime ou à l'angoisse ou à autre chose ?
Ouh là là, alors là, c'est vraiment multifactoriel. Hein. On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment des raisons particulières. Il y a simplement des moments de la vie où on ne peut plus avancer, en fait. Ça se traduit comme ça la plupart du temps. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont un accident de la vie, comme on dit, et que cet accident de la vie, finalement, révèle une partie qui ne fonctionne pas chez eux, qui dysfonctionne et qui les empêche, en fait, d'avancer, de continuer à construire, d'être joyeux, voilà. Et oui, c'est un gros handicap, oui, c'est clair.
Et aujourd'hui, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Et à votre avis, est-ce que les réseaux sociaux ont un impact sur ces maladies ?
Alors, l'impact, il peut être double. Il peut à la fois être extrêmement positif, parce qu'à certains moments, ça peut donner l'illusion qu'il y a un maillage, qu'on est écouté par des gens, qu'on est reconnu, combien j'ai de likes, etc. Alors évidemment, l'effet pervers de ça, c'est qu'en fait, c'est complètement fictif, en fait. Hein, ça ne correspond à rien. Et dès que les personnes se retrouvent confrontées à la réalité, ça crée une grande dépression, parce qu'il y a un décalage entre leur perception et ce qu'ils constatent, en fait, de façon factuelle, quoi. Voilà, donc il y a les deux aspects. Moi, je ne suis pas contre les réseaux sociaux. Je trouve que ça a du bon. Mais il faut toujours relativiser et bien remettre à sa place le rôle que peuvent tenir donc les réseaux sociaux.
D'accord. Et que faire si nous-mêmes ou même l'un de nos proches est confronté à ces difficultés psychologiques ?
Alors, il faut consulter le plus tôt possible. Et bien souvent, je parlais du déni tout à l'heure, c'est vrai que c'est tellement difficile à accepter comme idée, parce qu'il y a encore dans l'idée de beaucoup de gens, faire une dépression, c'est une preuve de faiblesse, c'est une preuve de manque de savoir-faire, on culpabilise beaucoup. Et ce qu'il faut, la première chose, c'est d'en parler déjà à son médecin traitant. C'est la première étape, en fait. Normalement, c'est quelqu'un avec qui on a créé du lien et avec qui on peut parler relativement librement. Voilà. Et ne pas hésiter à aller voir un psychiatre, parce qu'il faut quand même savoir que le psychiatre est la seule personne pour vraiment identifier les pathologies mentales et établir un traitement, par exemple.
D'accord.
Et c'est pas gagné en France. Hein. C'est pas du tout le cas dans d'autres pays, mais en France, c'est encore très, très compliqué. C'est encore le médecin traitant qui prescrit les antidépresseurs, par exemple. Ça ne se voit pas dans d'autres pays.
Ah, d'accord. Et enfin, c'est quoi la démarche pour vous contacter ?
Ah, c'est très simple. Il y a un numéro de téléphone, il y a donc une boîte mail. Donc le numéro de téléphone, c'est le 07 80 47 43 30. Le mail, donc, c'est Les Voix des Mérats, tout attaché en minuscules, @gmail.com. Et là, donc, on prend rendez-vous. Les entretiens sont complètement gratuits. Et il y a simplement la possibilité pour les personnes soit d'adhérer ou de faire un don. Enfin, voilà, parce que pour l'instant, nous n'avons aucune subvention.
Et dernière question, où est-ce qu'on peut vous trouver ? Parce qu'on a votre numéro de téléphone et votre mail, mais où est-ce que vous...
Alors justement, parce que l'un de nos objectifs, justement, c'est la proximité. Et donc, en plus de mettre ces entretiens à disposition des personnes, leur donner cette possibilité, on a essayé d'avoir un maillage, de se rapprocher le plus possible, en fait, des gens les plus fragiles. Et donc, nos points d'accueil, donc, c'est Morlaix. Notamment à Kérilis, juste à côté de Carédas, que je remercie au passage. On est sur Plouénan également, sur Plouvorne, sur Guimillot et sur Landivisio, et bientôt sur Plouganou.
D'accord.
Voilà, donc ça nous demande quand même beaucoup de... On fait beaucoup de kilomètres, en fait.
D'accord.
Et puis, il y a un autre avantage à ça, c'est que À chaque fois qu'il y a un problème en fait en France, on a tendance à créer, vous savez, des lignes gratuites, etc. Là, il y a un vrai contact humain. Et ça, je crois que c'est remettre de l'humain finalement dans la relation. Je crois que c'est vraiment essentiel. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Excusez-moi, je déborde.
Pas de souci. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Et nous allons maintenant faire une petite pause musicale. On écoute Le hasard ou la chance de Sopico et on se retrouve juste après.
Enfoiré, t'es pété, tu conces grave. Tu connais bien l'effet du bon sky. Si j'ai des jetons, je crache. Béné veut qu'on se capte, mon bébé veut qu'on se capte. Tu es à Paris si tu le fièves, dojo volant. Si tu veux Paris si tu me cherches. À des années de tes plans, regarde-moi faire. Je vais pas parler, jeter de l'encre. C'est pour le cracher en toute langue, olé. Je suis devant le brasier en coupe-vent. Je vais m'en aller en tournant en boucle dans tes oreilles comme Harley en doublant. Comme un grand Chester, soit 28 jours plus tard à Manchester. J'ai cuisiné un remède à lancer, je teste. Comme un zombie, ton fiston va Manchester. Je positif, parle de paix, mais SO les larmes et le pèse. Flow dit-il, parole et code, iblis, une go, tu voles, et cause, arme le piège. Pas dopé, SO la force. Meilleur en physique, en flow et en technique. Fais ma mort, mais tôt la foc. Mi amor, mi corazon. Je ferais mieux d'appuyer sur mute. Hey, sans t'écouter à l'occasion. Je peux te jurer que c'est vraiment mal au cas. Je me suis pensé, j'ai très mal au casque. Leur musique est antiproductive. Tant pour que tu sois gentil, faut que tu kiffes. Tant pour que je sois gentil, faut piller l'os des jaunes. Et qui est l'os des chauds. Le hasard ou la chance, soit ils se rencontrent avec ennemis cagoulés. Tes problèmes te rattrapent. Deux, trois racliteraient sur mon dictaboulette. Le hasard ou la chance, soit ils se rencontrent avec ennemis cagoulés. Tes problèmes te rattrapent. Deux, trois racliteraient sur mon dictaboulette. T'es pas à la page, yeah. T'es pas à la page, yeah. J'mets tes gars à la casse, yeah. J'mets tes gars à la casse, yeah. T'es pas à la page, yeah. T'es pas à la page, yeah. J'mets tes gars à la casse, yeah. J'mets tes gars à la casse, j'ai pas bougé la tête, j'vais pas crariser des hauts. Je vais m'offrir une jolie Ferrari, j'ai des hauts. Nord capuche, vise au-dessus de la vitre et des off. Non, Higo, jure, c'est pas la ville qui était moche. Si j'fumais un double avant de tête, viens pas m'péter les couilles à Rancelet. Saura toute ma tendresse, jeune et saut du roro sous la dentelle. Je vis au calme, je m'agite et pour ça je fais pas de yoga. Qui au car, je s'imaginerait que je serais loin du vice en kilo cash et cas dans le Clio 4. Si la rage prenait là, j'ai fait pousser la graine sans faire usage de mes larmes. Ma grand-mère était femme de ménage, je nettoierais pas même le sang. Se mettre à les amène le champ. Le respect se prend et le respect se déchire, je vais tester ce défi. Wow. J'fais de la musique et double et du père, je le bras long à la portée du PS, check moi bien. Pratique Kansas City, je veux mes amis connaissent mon potentiel. On parlera après quand je sais pas. J'ai que mon nouveau Texan, le C4. Je veux faire un after au Madison, toujours bien accompagné comme Madison. Laisser des marques sur ma vie, vous faire échequer ma comme mon CD va t'y sort. Je m'arrête pas fuck le coup de sifflet, je suis ailleurs sur Ebaf, sur du Lilou Ziver. Je vais toute la caisse et la vie sauf. Son gros cul vient agresser ma vision. Hasard ou la chance, soit ils se rencontrent avec ennemis cagoulés. Tes problèmes te rattrapent. Deux, trois racliteraient sur mon dictaboulette. Hasard ou la chance, soit ils se rencontrent avec ennemis cagoulés. Tes problèmes te rattrapent. Deux, trois racliteraient sur mon dictaboulette. T'es pas à la page, yeah. T'es pas à la page, yeah. J'mets tes gars à la casse, yeah. J'mets tes gars à la casse, yeah. T'es pas à la page, yeah. T'es pas à la page, yeah. J'mets tes gars à la casse.
Nous sommes de retour à Caredas pour la suite de cette émission spéciale Maladie ou handicap invisible et nous allons écouter un enregistrement que Lucien a fait. Il est allé interroger son père, Yann Gentil, éducateur en insertion à l'association Don Bosco à Morlaix, qui nous parle du travail de réinsertion du public avec qui il travaille et qui est bien souvent atteint de maladies invisibles.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Oui, bon, bonjour, je m'appelle Yann Gentil, j'ai 51 ans. Je suis encadrant technique sur un atelier d'insertion sur la région de Morlaix. Un atelier d'insertion qui appartient à l'association Don Bosco et qui est financé par le conseil départemental.
Avec quel type de personnes tu travailles ?
Alors, je travaille avec des gens en grande marginalité, on va dire, et en grande souffrance. On peut les catégoriser de deux façons, par l'entrée des problématiques. Donc j'accueille des gens qui sont dans les problématiques liées aux soins, notamment les addictions, addiction aux toxiques, addiction aux produits, addiction à l'alcool. Des gens qui sont aussi dans des maladies psy, qui sont en souffrance psychique. Donc ça peut être des gens qui sont bipolaires ou schizophrènes. Voilà. L'autre grosse problématique, c'est la problématique sociale, avec des gens qui sont carencés affectifs et éducatifs, et pour qui il y a des problèmes de cadre, du mythe. Et puis la dernière problématique, c'est la problématique justice, parce qu'on travaille aussi avec le SPIP, Service d'insertion et de probation pénitentiaire, qui nous oriente des personnes qui ont des injonctions de formation de travail. Voilà, ça c'est une façon de catégoriser les gens. La première façon, en fait, c'est que, de par le projet de l'atelier d'insertion, on accueille majoritairement des gens qui sont au RSA. Et voilà, parce que c'est un atelier qui est financé par le département. Mais on accueille des gens aussi qui sont à l'AAH, allocation adulte handicapé, et des gens orientés par le Pôle emploi, qui sont en ARE ou en ASS.
Ok. Avec quel support tu travailles leur insertion ?
Alors, j'ai deux grands supports à l'atelier d'insertion. Il y a un support très large qui est le travail du bois. Donc on travaille beaucoup sur le réemploi de la palette. Avec ça, on peut faire des assises, des bancs, des tables, des manches debout, des sapins de Noël, enfin... Tout ce qu'on peut imaginer, on peut le faire facilement parce qu'on a du temps en fait. Je fais ça, donc je fais aussi du loisir créatif, j'initie des gens à la sculpture. On peut faire aussi du mobilier carton. Je fais un peu de mécanique de temps en temps, un peu de soudure. Et le deuxième support, c'est le jardin. On a un jardin à Tron-les-Vess qui appartient à la Fondation Massé-Trévilly. En échange du prêt du lieu, on entretient en fait et on fait pousser des légumes. Alors tout ça, c'est des supports, mais ça reste avant tout un support de médiation. C'est quelque chose qui arrive, enfin qui me sert à rentrer en relation avec la personne que j'encadre et que j'accueille et que j'accompagne pour aller un peu plus loin dans la lecture de sa pathologie et quelles clés on peut lui donner pour le retour à l'emploi.
Ok, très bien. Et par exemple, comment tu fais pour que les choses se passent bien à l'atelier ?
Alors, en amont, on a un projet de service qui a été pas vendu entre guillemets à tous nos partenaires, présenté quoi. Donc, les partenaires sont en capacité de cibler les personnes qu'ils vont amener sur l'atelier. Voilà. Donc. Elle nous téléphone dans un premier temps pour proposer la personne. On prend un rendez-vous et on fait un bilan d'entrée. Et au cours du bilan d'entrée, on évalue un peu la personne qui est en face et on lui propose ou pas de venir sur l'atelier. Ça, voilà, ça dépend du projet. Et pour que ça se passe bien, en fait, on essaie de sécuriser la personne. C'est de la mettre en confiance, lui dire qu'il n'y a pas forcément de pression à avoir parce que c'est un atelier où on peut faire beaucoup de choses. Et on peut avant tout se tromper pour avancer. Voilà, et puis après, ben moi j'essaye que les gens soient bienveillants entre eux. Et puis quand il y a des personnes qui déconnent un peu, ben on les recadre en entretien individuel.
Et justement, t'as déjà eu des difficultés
Alors ça arrive, mais c'est très très marginal. Et quand ça arrive, bon, on peut parler de violence, hein. Il faut voir avec les yeux du professionnel, avec les yeux de l'éducateur, que derrière la violence, en fait, il y a une grande angoisse et beaucoup de difficultés. Et il faut traduire la violence, en fait, par une difficulté de la personne à ce moment-là. J'ai eu des problèmes parce que, alors c'était quoi le truc ? Enfin, c'était des gens qui étaient dans des grosses pathologies. Cette année, j'ai eu avec une personne qui était bipolaire, qui m'a pété une grosse crise par SMS. J'avais l'impression qu'il était sur une tentative de suicide, et puis en fait, non. Et il m'a téléphoné, c'est allé très loin. Donc voilà, après, on se protège, on rend compte auprès de sa hiérarchie. Et puis on fait en sorte que la personne aille mieux. Et l'autre, c'était il y a 3 ou 4 ans, c'était une personne qui avait une grosse pathologie alcoolique. Et qui respectait pas les cadres ni les limites. Donc là, c'est la procédure, c'est entretien, puis lettre pour le signifier que la personne, bah, on peut plus la garder dans ces conditions sur l'atelier. Mais il faut bien se mettre à l'esprit qu'avant tout, ces gens-là, s'ils sont violents ou s'ils déconnent, c'est parce qu'ils sont super angoissés derrière. Les malades.
Ok. Et finalement, qu'est-ce que tu en penses de ces pathologies-là ?
Moi, les pathologies que j'ai, en fait, c'est surtout des pathologies liées aux addictions. Et de toutes ces pathologies, en fait, elles ont un point, une entrée commune, c'est généralement... un passé ou une enfance qui a été très très mal vécue. Et toutes ces addictions, en fait, elles se développent chez les personnes qui sont carencées affectives et carencées éducatives, mais surtout carencées affectives. C'est des gens qui ont pour faire une image, qui ont un trou dans le ventre parce qu'il leur manque quelque chose et qui ont besoin de le remplir en permanence. Donc ils le remplissent avec des toxiques, avec de l'alcool, avec du jeu, enfin voilà. Et puis l'autre pathologie difficile, c'est la pathologie psy. Donc c'est des gens qui sont en souffrance psychique, qui demandent beaucoup de temps, parce que c'est des gens qui sont ultra angoissés et qui passent leur temps à vérifier la solidité du cadre et puis la solidité de l'encadrant. Voilà.
Bon bah merci beaucoup.
Ok.
Vous écoutez Caredas, l'émission sur les maladies ou handicaps invisibles, et nous accueillons maintenant Kamel Guérol, qui est fondateur de l'association Apica.
Bonjour Kamel.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Je m'appelle Kamel Guérol, en fait, j'ai monté une association il y a maintenant, Apica, qui veut dire Association de Prévention et d'Information sur les Conduites Addictives. Donc j'ai monté cette association-là il y a maintenant une quinzaine d'années. Donc, où je fais de la prévention de l'usage de drogue pour... je vais aider les jeunes qui ne sont pas dedans à essayer de ne pas y rentrer et à ceux qui sont dedans à essayer d'en sortir.
Ok. Et est-ce que vous avez un passif avec...
Moi, je suis un ancien toxico. Ouais.
Ok. Mmh. Et quel élément qui vous a fait tomber dans cette addiction ?
Bah, moi, c'était le décès de mon père et puis ça a été que je me suis retrouvé tout seul après. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Donc, je prends pas mon cas pour une généralité. Mais en tout cas, ce qui a pu m'aider à m'en sortir aujourd'hui, si je peux aider d'autres, ben, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, en fait.
Ok. Ouais.
Et c'est pas une fatalité, quoi. On peut en sortir, enfin, voilà, c'est...
Ouais. Ok. Et en parlant de votre addiction, est-ce que vos proches se sont rendus compte de cette addiction ?
Bien sûr que non. Bah, comme tout la plupart du temps, en général. Bah, voilà, quoi. Mm. En général, quand ça se voit, c'est que tu veux que ça se voit. Mm. Si okay. Tu veux pas que ça se voit, ça se voit pas.
Et comment vous avez réussi à cacher, entre guillemets, cette addiction
Bah moi, je me suis isolé, en fait. Je me suis barré de chez moi très, très tôt. J'avais 14 ans et puis je me suis retrouvé dans la rue, quoi. Donc après, tu te noies dans la masse. Donc habillé en kaki avec un chien, ça passe bien.
Ok. Et pour vous, est-ce que la toxicomanie, c'est une maladie invisible ou non ?
Oui, parce que c'est vrai que c'est pas marqué sur la tête des gens, quoi. Et après, c'est pour ça, moi, je mets un bémol par rapport à tout ça. C'est-à-dire que, enfin, moi, je ne fais aucune distinction entre l'alcoolisme et pour moi, c'est une toxicomanie, quoi. Mmh. Non, parce que souvent, on est là, on sépare les choses en disant, il y a les drogues et il y a l'alcool. Non, l'alcool est une drogue, en fait. Donc, il faut qu'on commence déjà par ça, déjà. Et ça, je trouve ça vraiment important. Parce que certains, tant qu'ils ne se mettent pas dans la case toxique, ils ne sont pas trop inquiets, quoi. Donc, en fait, c'est... Mmh. Ouais. C'est la toxicomanie, c'est une addiction. C'est quand on a perdu la liberté de s'abstenir, qu'on ne peut plus s'empêcher d'eux, quoi. C'est ça l'addiction, en fait. Après, ça peut être voilà, ça peut être les toxiques, ça peut être l'alcool, ça peut être les médicaments, ça peut être le jeu, ça peut être plein de choses.
D'accord. Aussi, et à ce moment-là, quel était le regard sur vous-même au moment de l'addiction, de votre addiction ?
Bah, dévalorisant, surtout la mésestime et tout ça, quoi. Tu vas pas bien. Enfin, moi, je sais qu'en plus, je sortais d'incarcération, donc c'est pas été quelque chose qui a été fait pour m'aider non plus, quoi. Donc. Après, c'est la spirale, en fait. Hein. Tu fais des conneries. Enfin, voilà. Après, il te faut de l'argent pour te droguer. Puis tu te retrouves en taule. Enfin, ça va, c'est la spirale. Puis après, tu as attiré que des gens qui sont comme toi, quoi. En fait, tu traînes pas avec des gens qui se défoncent pas. Tu traînes qu'avec des gens comme toi. Donc, c'est pas tes potes qui vont te tirer vers le haut, quoi. Surtout quand eux-mêmes sont déjà dedans, quoi.
Mmh, Ok. Et est-ce que vous avez eu un déclic? Est-ce qu'il y a un déclic qui vous a permis de sortir de cette situation?
Ouais, complètement. Ouais. Je me suis investi dans une... Enfin, j'ai voulu bosser. Je me suis rendu compte qu'avec mon casier judiciaire et tous les emmerdes que j'avais depuis tout jeune, ça les allait être compliqués. Donc je me suis investi dans une association. Et je me suis investi dans une association qui s'appelle AIDE, qui est l'association de lutte contre le sida. Et en fait, je me suis occupé de malades du sida pendant 12 ans. Et plus j'ai aidé les gens à aller mieux, plus moi, j'ai commencé à aller mieux, en fait. Tu donnes beaucoup dans une association, mais tu reçois énormément. Les gens ne le disent pas, mais c'est important de le dire. Tu reçois énormément, quoi. C'est okay. Clair. Hein.
Et comment ça se passe, le travail à l'association APICA, du coup
En fait, moi, je fais de la prévention. C'est-à-dire que j'interviens en milieu scolaire, j'interviens dans les centres sociaux, dans les missions locales. Enfin, par exemple, demain, je suis à la mission locale de Carré. Enfin, voilà. Après-demain, je suis dans un foyer à Guingamp. Enfin, voilà, je bouge où il y a les jeunes. Parce qu'effectivement, les jeunes, ce n'est pas que ceux qui sont scolarisés, quoi. Il y a aussi tous les autres qui sont sortis du circuit scolaire qu'il faut aussi voir, en fait. Et donc, ça, c'est important. Et puis, je sais pas, pour vous dire, c'est varié. Hein. Il y a 2 semaines, j'étais à l'école de gendarmerie Châtelain, où je formais 200 gendarmes. Donc voilà, c'est varié, très très varié.
Ok. Ouais. Et est-ce que vous avez un message que vous souhaiteriez faire passer vraiment?
Que l'ignorance augmente la vulnérabilité. À partir du moment qu'on n'est pas informé, on n'est pas crétin, on est vulnérable. Et c'est ces vulnérabilités-là qu'il faut faire attention. Quoi. Ça va, c'est pas que les autres. Souvent, quand on me dit les autres, moi ce que je dis souvent, c'est qu'on est tous l'autre de quelqu'un. Et ça, faut jamais l'oublier. Quoi.
Ok. Merci Kamel.
Merci.
Oui, merci Kamel d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Et tout de suite, on écoute Green Jewel de Krill et on se retrouve pour la fin de l'émission.
I came across what seems to be you in a shell. The feeling was not exactly different, nor really the same. You're standing there, a face on your shame, with green jewels. If we make believe and I believe you, who would be the fool? With green jewels, who would be the fool? With green jewels, if you're wrong, then who would be the Your eyes once were blue, but now they're fading. Green they go. Look at you suffering from a syndrome. No one knows the cause. I used to pray for you to get through. With green jewels, if we make believe and I believe you, who will be the fool? Qui du fou ou qui du sage? If you're wrong, then what am I? Si je me trompe, c'est quoi les pailles? Ça rend fou, restez sage. Who's the fool and who's in charge? J'y vois flou, c'est quoi les pailles? If you're wrong, then who would be the fool?
Then who would be the fool?
We will go
Nous sommes de retour à Caredas pour l'émission spéciale Maladie ou Handicap Invisible. Nous allons écouter un enregistrement de Léa et Maëva qui sont allées à la clinique de la Baie pour interroger le docteur Juliette Guibert, gynécologue à Morlaix, sur le sujet de l'endométriose.
Alors, Juliette Guibert, je suis médecin, gynécologue, installée à Morlaix depuis 7 ans.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'endométriose ?
Alors, l'endométriose, c'est une maladie qui, sur le plan de la physiologie, c'est-à-dire l'explication de la maladie, c'est de l'endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse de l'utérus, qui est au mauvais endroit. C'est-à-dire, au lieu d'être dans l'utérus, il est à l'extérieur de l'utérus. Donc, il y a quand même de l'endomètre dans l'utérus, mais il y a des petits morceaux d'endomètre qui, on ne sait pas trop pourquoi, enfin, il y a plein d'hypothèses, qui soit ont migré, soit se sont installés là tout seuls, en dehors donc de l'utérus. Ça veut dire éventuellement sur l'ovaire, sur la paroi de l'abdomen à l'intérieur, ce qu'on appelle le péritoine. Hein, l'abdomen à l'intérieur est recouvert d'un tissu très fin qui s'appelle le péritoine, et l'endométriose peut se poser sur le péritoine et puis se fixer là. Ça, c'est sur le plan d'explication de la maladie. Qu'est-ce que c'est sinon pour les femmes en pratique ? Elles s'en fichent de savoir qu'elles ont de l'endomètre à l'intérieur du ventre.
Et,
voilà. Mais en pratique, c'est surtout, avant tout, des douleurs, notamment au moment de la période des règles, mais évidemment qui sont des douleurs un peu inhabituelles par rapport à des règles normales. Bon, les règles, c'est douloureux, ça, c'est classique. Mais bah, comme l'endomètre n'est pas au bon endroit, bah, il va déclencher des douleurs qui sont inhabituelles. Inhabituelles, d'une part, par leur localisation, c'est pas toujours exactement comme des douleurs de contraction utérine comme les douleurs de règles habituelles, et en plus par leur intensité. Parce qu'en fait, bah, l'endomètre qui est au mauvais endroit, il va saigner pas au bon endroit, au lieu de saigner dans l'utérus et de s'évacuer comme d'habitude les règles, et bah là, il va saigner dans le ventre, et du coup, bah, ça fait des douleurs qui sont beaucoup plus intenses. Voilà. Le deuxième moyen qui permet parfois de diagnostiquer l'endométriose, même si les femmes n'ont pas eu forcément des règles particulièrement douloureuses, ou qu'elles ne l'ont pas spécialement mal vécue, c'est l'infertilité. Parce que, à force de saigner dans le ventre, pour schématiser un peu, à force de saigner dans le ventre, l'endomètre va provoquer des adhérences, un milieu qui n'est pas favorable à l'implantation des embryons, enfin à la bonne tenue des embryons. Et donc ça fait qu'effectivement, on peut le découvrir par l'infertilité. Attention, ce n'est pas parce qu'il y a de l'endométriose au sens de des lésions d'endomètre qui sont ailleurs que dans l'utérus que forcément il y a les symptômes de l'endométriose. Hein, ce n'est pas toujours le cas. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres symptômes que vous n'avez pas cités, par exemple, quand on a l'endométriose, qui peuvent être ?
Donc, les autres symptômes qui sont dans le cortège des douleurs, c'est des douleurs qui sont en dehors de la période des règles, qui sont notamment dues, très probablement, plutôt au fait des fameuses adhérences, etc., qui peuvent occasionner des douleurs autres, parfois plus importantes au moment des règles, mais persiste quand même tout le cycle, par exemple des douleurs lors des rapports sexuels, des douleurs lorsqu'on va uriner, des douleurs lorsqu'on va à la selle, des douleurs, enfin globalement des douleurs un peu n'importe comment et qui sont parfois très intenses. Mais c'est surtout sur l'aspect douloureux que se manifestent les symptômes en fait.
Est-ce que vous pouvez nous dire combien de femmes ça touche en France ?
Alors c'est très difficile.
À peu près.
Voilà, c'est très difficile parce que évidemment il y a toutes les formes d'endométriose. De la plus légère à la plus forte, en sachant que il y a aussi beaucoup d'endométriose probablement qui ne donne pas de symptômes. Donc si on fait une célioscopie, c'est-à-dire aller voir dans la cavité abdominale de toutes les femmes qui passent dans la rue, on va sûrement trouver de l'endométriose qui ne s'est jamais manifestée. Et ça, c'est pas grave. Donc ça dépend effectivement de quelle endométriose on parle. On considère que l'endométriose symptomatique, c'est de l'ordre de 1% à peu près. Donc ça touche quand même un certain nombre de femmes. Les endométrioses grave, avec retentissement sur des douleurs intenses, de l'infertilité, etc., c'est quand même beaucoup plus rare.
Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a un traitement qui existe à l'heure d'aujourd'hui contre cette maladie ?
Alors, le traitement de l'endométriose, c'est avant tout le traitement des symptômes. Parce que, comme je vous disais, comme ce n'est pas spécialement une maladie, sinon qui va mettre en péril la santé physique ou la vie, il n'y a pas de raison spécialement de la traiter en dehors des symptômes. Donc, avant tout, c'est le traitement de la douleur. Alors, le traitement de la douleur, il peut être soit avec des antalgiques, donc les antalgiques habituels des douleurs de règles, mais pris de manière systématique, pris de manière vraiment très précoce, hein, pas laisser s'installer la douleur, comme tout type de douleur intense, il ne faut pas la laisser s'installer. Donc ça, c'est les antalgiques, essentiellement antalgiques de base, paracétamol, et les anti-inflammatoires qui sont très efficaces. Et puis, il y a un deuxième volet pour combattre la douleur, qui est le fait de mettre tout simplement l'endomètre au repos. Donc, du coup, il va être beaucoup moins actif. Et donc, ça, c'est globalement la contraception hormonale. Hein, les traitements hormonaux, en fait, contraceptifs, par deux moyens, soit parce qu'ils mettent les ovaires au repos, et donc, du coup, il y a beaucoup moins d'activité de l'endométriose, soit parce que, tout simplement, il y a certaines pilules qui vont faire qu'il n'y a quasiment pas de règles, donc quasiment pas de saignement à l'intérieur de l'abdomen, et donc quasiment pas de douleur de règles et de problèmes liés à la douleur. Donc ça, c'est pour le versant douleur de règles. Pour le versant de l'infertilité, c'est le traitement de l'infertilité, je dirais, autre, hein, enfin au sens de habituel. Et puis les traitements, après, de tout ce qui est très intense, des endométrioses très sévères, on peut aller jusqu'à la chirurgie, avec parfois, il faut aller enlever les lésions d'endométriose sur les ovaires, sur le péritoine, parfois même sur le tube digestif, avec parfois de la chirurgie extrêmement lourde. Il va de soi que ce sont des formes très particulières, très rares d'endométriose, heureusement, qui justifient d'aller jusqu'à ces chirurgies importantes.
Est-ce que les femmes osent plus en parler maintenant? Peut-être qu'avant, il y avait un peu de tabous où on pensait juste que c'était des règles douloureuses. Comment savoir si c'était vraiment de l'endométriose ou juste des règles douloureuses?
Ce qu'il y a, c'est que surtout, on a fait beaucoup de progrès en matière d'antalgique, c'est-à-dire de médicaments contre la douleur. Donc, globalement, pour toutes les douleurs de règles banales, on a plus tendance à traiter avec des antalgiques et donc à détecter des douleurs plutôt, qui sont pas bien traitées par les antalgiques habituels, et donc à se dire, tiens, il y a quelque chose qui va pas. Parce que avant, on disait, globalement, tu as des douleurs de règles, prends sur toi et puis ça passera, dans 5 jours c'est fini, on savait pas trop ce qui était le fait des douleurs de règles et le fait des douleurs de règles inhabituelles. On disait juste, celle-là elle est plus douillette, ou celle-là de toute façon, ma mère aussi, elle avait des douleurs d'oreilles très intenses. C'est comme ça, c'est la malédiction de la famille. On ne faisait pas trop la part des choses entre les... Alors, maintenant, on a quand même des antalgiques qui sont assez efficaces sur les douleurs d'oreilles en général. Et puis, quand on voit qu'il y a des douleurs qui résistent à ces antalgiques habituelles, on se dit, là, il y a quelque chose quand même qui se passe. Ouais. Et il faut effectivement en tenir compte.
D'accord. Est-ce que, par exemple, pour aujourd'hui, pour des femmes qui souffrent d'endométriose mais qui peut-être le savent pas, est-ce que vous avez des conseils à donner, par exemple, pour le signaler rapidement, ou est-ce que vous avez des conseils à donner
Globalement, de pas considérer que les douleurs de règles sont quelque chose sur lequel il faut s'asseoir et que qu'elles soient dues ou non à l'endométriose, les douleurs de règles, il faut les traiter. Faut pas se laisser souffrir ou ne pas aller à l'école, au collège, au lycée, etc. Ne pas aller au travail, etc. Donc, c'est des choses, il faut pouvoir les traiter. Si on n'arrive pas à les traiter, c'est qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, il faut le prendre en charge. Voilà, donc c'est ça aussi. Et je dirais, à la limite, parfois, on n'est pas non plus obligé de faire des investigations extrêmement poussées pour savoir oui ou non, est-ce qu'il y a de l'endométriose ou pas. L'essentiel étant de traiter la douleur. Faut jamais oublier ça, et que quand même souvent, si c'est la pilule qui règle le problème, je dirais à la limite qu'il y a une endométriose en dessous ou qu'il n'y en ait pas, peu importe. Ce qui compte, ouais, c'est que surtout, hein, voilà, on traite la douleur. Et ça, c'est important. Mais c'est vrai que parfois, dans des douleurs assez résistantes, bah, on va se dire, bah, finalement, il y a peut-être quand même quelque chose. Et aller jusqu'aux formes dont je parlais tout à l'heure, où on peut être amené à faire de la chirurgie, hein, si la pilule ne suffit pas.
Et justement, est-ce qu'il y a peut-être des centres, est-ce qu'il y en a en Bretagne, quand c'est des chirurgies lourdes comme ça, alors, où il faut aller plus dans les grandes villes peut-être?
Absolument, justement, il y a depuis 5 ans, depuis 2016, un réseau de Bretagne occidentale, donc de qui concerne Brest, et donc enfin toute la région autour de Brest, donc nous en faisons partie. Donc avec un système de recours, c'est-à-dire bah il y a les gynécologues et les médecins etc qui sont en première ligne, ensuite ils adressent à un gynécologue qui est un petit peu plus expérimenté dans le domaine, et puis ensuite on va adresser à des radiologues qui ont l'habitude de faire des investigations d'endométriose, et ensuite voilà, et éventuellement s'il y a de la chirurgie à faire, on a des chirurgiens référents qui peuvent s'en occuper. Hein, donc ça, c'est ce qu'on appelle un réseau en médecine. Et il y a un réseau qui existe donc depuis 2016 en Bretagne occidentale. Et qu'on est en train de rabouter, si je puis dire, avec en fait un grand réseau régional qui concerne toute la Bretagne, en fait, et qui permet de mettre en commun des projets de recherche, des compétences, etc.
D'accord. Bah, merci beaucoup, ça sera tout, du coup.
Merci à Juliette Guibert d'avoir répondu à nos questions, et elle a aussi précisé quelque chose en dehors de l'enregistrement. Elle a ajouté qu'il ne fallait pas mettre d'étiquette aux personnes qui souffrent d'endométriose ou même d'une autre maladie en général, parce que ça peut gêner ou faire du mal à la personne, et le plus important, c'est de ne pas s'auto-diagnostiquer et de toujours demander l'avis à un professionnel avant.
Merci Léa pour cette précision. Et c'est par ce message important que s'achève cette deuxième et dernière émission de la saison. Merci à tous ceux qui se sont investis dans le projet. Merci à tous les participants et nos invités Martine Cabal de l'association Les Voix des Méras et Kamel Gheloul de l'association Apica.
Et merci à Radio Nord-Bretagne de diffuser cette émission et à tous les auditeurs pour nous avoir écoutés. À bientôt.
C'était très bien. C'était très bien.
Oh! Et alors, je vois plus grand que j'en fais. À moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rire. À toi, il te fait rire.
Oh, très bien.